Bonjour chers amis auditeurs de Radio Silence, nous sommes le vendredi 28 mai 2010 et aujourd'hui nous allons parler du projet ITER. L'actualité commande de parler de ce projet sur lequel de nouvelles informations viennent de parvenir. C'est une gigantesque machine située depuis 2005 à Cadarache dans le Libéron et qui a pour objet, écoutez bien, d'essayer de maîtriser les réactions de fusion thermonucléaire qui s'opèrent dans le cœur du Soleil. Si l'essai venait à être concluant, ce qui n'est pas gagné, un autre appareil devra sans doute voir le jour pour nous délivrer une énergie apparemment gratuite. Nous avons été invités à lutter contre le soleil par la chimère du réchauffement et nous voici conviés à le copier grâce à une autre chimère. Il est particulièrement difficile d'évoquer ces faits, tout simplement parce que nous sommes ignorants des aspects scientifiques qu'ils comportent. Les décideurs politiques qui ruinent les populations en s'y engageant pour leur seul bon plaisir sont tout aussi ignorants et c'est un danger de plus. Ils ressemblent à ces banquiers qui ont coulé leur banque en avalisant des projets qu'ils ne comprenaient pas. Cette fabuleuse expérience a sa première origine dans les années 1980. Après beaucoup de péripéties, elle devait démarrer en 2015, puis il fut question de 2019 et de 2026. Maintenant, les journaux parlent de 2060 ou la fin du siècle. Cela reflète une autre difficulté dans l'analyse. Les seules informations que l'on reçoit sont celles des journalistes qui, selon leurs habitudes, ne sont ni clairs ni complets ou sinon, comme d'autres, ignorants. Sur le plan du coût, c'est un emballement sans limite. Au départ, il était question de 4,6 milliards d'euros pour 10 ans de construction. Les délais se sont envolés et aussi le prix des matériaux. Aux dernières nouvelles, il serait question de 15 milliards. Grosso modo, les Européens supporteront 45%, le reste se répartira entre la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Inde, le Japon et la Russie. Le nombre total de pays contributeurs est de 34. Comme toujours, dans les projets publics, et nous sommes peut-être les seuls à le dénoncer, c'est le coût sec qui est annoncé et pas du tout le coût véritable. Deux éléments manquent toujours. D'abord, les dépenses adjacentes. Dans chacun des 34 pays partenaires, une foule de dépenses adjacentes se déclenche pour gérer l'immense projet avec des créations d'organismes et de fonctions, sièges de fructueux fromages. En outre, plus les projets sont chimériques, plus ils s'étalent dans le temps, et les intérêts composés partent alors en fusée. Il faudrait pouvoir établir le calcul du coût total prévisible à la fin du siècle avec un taux raisonnable d'intérêt de 3%. Les chiffres publiés par la presse, malheureusement, ne sont pas assez précis pour établir ce calcul essentiel. Notons en outre que c'est une simple expérience pour montrer la faisabilité de la copie du Soleil. Après le copier, il faudra le coller, soit, pourquoi pas, un siècle de plus. Pour mesurer l'étendue du travail, quelques chiffres, probablement assez exacts, ont été publiés. Pour niveler le site de 40 hectares, il a fallu déplacer 2 millions de mètres cubes de terre, soit autant de volume que la pyramide de Khéops. L'édifice sera de 60 mètres de haut et pèsera 23 000 tonnes. Venons-en aux écolos qui sont les grands gagnants de l'incroyable entreprise. Ces personnages sont des fumistes, mais ils ont une immense qualité, ce sont des vendeurs de l'impossible. Leur champion est Nicolas, le grand, pas le petit, car Nicolas le grand a fait sa fortune sur l'art de vendre à la terre entière la chimère du réchauffement. Pour la chimère de l'ITER, ces écolos s'appuient sans doute en partie sur une route à grand gabarit qui a dû être bâtie au sud du Libéron pour faire passer 300 convois exceptionnels pendant 5 ans. Cette route, avec son trafic futur, est une vraie insulte pour les paysages du Libéron et les populations environnantes. Elle restera pendant longtemps la signature visible et sanglante du pouvoir dictatorial mondialiste en place. Ils ont obtenu de la région PACA que pour chaque euro affecté au réacteur, un autre euro serait affecté aux énergies durables et à la maîtrise de l'énergie. Comme les fumistes, sont arrivés à domestiquer un grand nombre d'États. L'exemple de cette compensation peut être suivi ailleurs qu'en France. Il y a de quoi frémir, car le coût total pourrait s'envoler encore plus haut encore. Parmi les procès, les projets décidés en PACA, citons pêle-mêle l'isolation thermique des bâtiments, 100 000 panneaux solaires sur le toit des lycées, 40 chaufferies à bois, une cinquantaine de centres culturels subventionnés pour l'amélioration de leur performance environnementale, 30 000 chèques énergie renouvelable donnés aux particuliers. Cette énumération n'est pas limitative. Ces projets sont tous ruineux, car s'écartant du choix des marchés libres, c'est donc une nouvelle cause de ruine résultant du mariage incestueux entre ITER et les écolos. Devant cette fabuleuse et magnifique farce internationale qu'est le projet ITER, interrogeons-nous sur l'étrangeté de son apparition au niveau mondial. Comment est-ce possible? Au socle se trouve la mise en place accélérée de la dictature mondialiste qui fait fi du jeu des marchés libres dans tous les domaines les plus inattendus. Le jeu des lobbies s'engouffre alors. Citons ici le lobby des scientifiques, celui du bâtiment, celui des banquiers. D'une bizarre façon se trouve aussi celui des écolos, qui trouvent, comme je l'ai montré, une occasion inespérée de faire fructifier leur business. Enfin, s'ajoute la cupidité solidaire des politiques de tout niveau et de tout pays qui s'engouffrent également. Un projet de cette ampleur génère partout de fructueux fromages aussi riches que son ampleur. Pour déboucher, il fallait cependant pour les décideurs politiques une apparence de bonne compagnie. La voici, qui ne serait pas sensible à l'idée même lointaine d'une énergie gratuite. En outre, pour des ignorants, il est toujours élégant de jouer au faux savant. Le résultat le plus certain est la ruine pour des États qui sont en majorité surendettés, la ruine allant par une chaîne de conséquences fracasser d'abord les plus pauvres de la planète. Conclusion. Un pouvoir français soucieux du bien commun arrêterait la catastrophe pendant qu'il en est encore temps, en disant au peuple la vérité et en dénonçant les traités correspondants. Chers amis auditeurs, je vous dis à mardi prochain.